Donc nous en étions aux polémiques sur le nombre de victimes de l'invasion depuis le début du mois de juin. Les polémiques portent aussi sur la question de l'usage du feu. Tout simplement, les Israéliens utilisent la langue de bois habituelle dans ce genre de choses. Les terroristes se dissimulent dans les secteurs à forte densité de population. Il y a pu avoir des erreurs de réglage d'artillerie ou de défauts dans le renseignement. La polémique s'enfle aussi sur la question de l'emploi des bombes au phosphore ou à fragmentation. Israël affirme ne les avoir utilisées que contre des objectifs militaires, mais à dire vrai, il ne semble pas qu'il y ait d'autres catégories d'objectifs dans les tirs israéliens. Ce qui est une, en fait, un pléonasme. Quand des bombes au phosphore détruisent le siège du journal libanais Al-Nahar à Beyrouth, qui abrite les représentations des principaux journaux américains, les intéressés peuvent soit considérer qu'ils ont été visés ou que les Israéliens tirent au hasard. Il en est de même de l'hôtel Commodore, quartier général de la presse occidentale à Beyrouth-Ouest, qui est atteint par des tirs israéliens. Comme ces armes sont de fabrication américaine, leur utilisation viole les engagements pris par les Israéliens de les utiliser qu'à des fins défensives, mais l'administration Reagan sait parfaitement qu'elle est dans l'incapacité de sanctionner Israël pour des raisons de politique intérieure. Les militaires israéliens accusent les médias occidentaux comme les diplomates de partialité, mais le fait est qu'ils sont des témoins oculaires et qu'ils rapportent directement ce qu'ils voient. C'est évidemment l'inconvénient d'une guerre en milieu urbain. Dans un pays ouvert, la bataille de Basra, qui se déroule parallèlement les mêmes semaines entre l'armée iranienne et l'armée irakienne, donc aussi en secteur urbain, attire beaucoup moins l'attention du fait que ni les Irakiens ni les Iraniens ne permettent à la presse internationale d'être à présent sur les lieux des combats. La presse est là parce qu'à la limite, il n'y a plus d'autorité libanaise. Donc la presse est d'une liberté totale. Les 23 et 24 juin, les Israéliens élargissent leur dispositif dans le secteur de la route Beyrouth-Damas au prix de violents combats avec les Syriens. En même temps, les forces libanaises pénètrent dans le Chouf avec l'autorisation de l'armée israélienne. Il s'ensuit de nouvelles violences confessionnelles entre druzes et chrétiens et le retrait des chefs musulmans du comité de salut national, public. Les militaires israéliens désapprouvent le comportement des forces libanaises et leur volonté de vengeance sur les populations druzes. Et les éléments druzes de l'armée israélienne prennent la défense de leur corps religionnaire libanais. Donc c'est un vrai problème pour l'armée israélienne, les heurts entre druzes et maronites dans le Chouf. Le second problème est composé par la volonté israélienne de reconnaître un rôle politique à Sadr Haddad. Bachir Gemayel refuse de partager le pouvoir ou de voir le Liban Sud passer sous tutelle israélienne par le biais de l'ALS. Au contraire, le jeune chef militaire tente d'établir une entente avec Nami Berri pour un partage du Liban Sud entre Hamal et les forces libanaises. Au reproche israélien sur le comportement de ces hommes, Bachir Gemayel réplique en mentionnant les multiples pillages et déprédations diverses commises par les soldats israéliens, y compris en secteur chrétien. La démission de Haig est ressentie en Israël comme un grave revers politique. Son successeur, Schutz, est considéré à tort comme un proche de l'Arabie saoudite parce qu'il a dirigé une compagnie de travaux publics ayant beaucoup de contrats dans ce pays. Le 27 juin, le gouvernement israélien propose pour la première fois une solution politique. L'armée libanaise doit pénétrer à Beyrouth-Ouest et désarmer les terroristes. Ces derniers ensuite auront toutes les garanties de sécurité pour se rendre en Syrie sous le couvert de la Croix-Rouge. Le contre-plan palestinien est un retrait israélien de 5 à 10 km contre l'abandon par les Palestiniens de leurs armes lourdes et leur repli sur les camps de la capitale dont ils assureraient la sécurité. Les Français proposent l'envoi de forces internationales chargées d'aider l'armée libanaise. Une résolution française dans ce sens a été déposée au Conseil de sécurité et a obtenu le 25 juin 14 voix contre un veto américain. Dans le jeu complexe des négociations, la France maintenant coordonne ses actions avec l'Égypte dans Hosni Moubarak. Si dans Beyrouth Ouest prédomine une union sacrée des combattants palestiniens et libanais, la direction de l'OLP a dû prendre acte des prises de position des dirigeants musulmans les plus importants, Walid Jumblatt, Nabi Berri, affirmant que les Palestiniens doivent accepter les réalités nouvelles et se préparer à une sortie dans des conditions honorables du Liban. Néanmoins, les premiers affrontements dans le Chouf entre les forces libanaises et le PSP, donc le Parti socialiste progressiste de Walid Jumblatt, modifient la situation, puisque de nouveau, on entre en risque de guerre confessionnelle. Le 1er juillet, Bachir Gemayel franchit une étape dans la reconnaissance politique comme interlocuteur légitime en étant reçu en Arabie Saoudite, qui lui propose une médiation entre lui et les Palestiniens. Bachir rejette toute présence palestinienne au Liban. Mais il est maintenant reconnu comme par les États arabes comme un interlocuteur. Sharon est impatient d'en finir. À partir du 2 juillet, il impose un blocus de Beyrouth Ouest interdisant l'entrée des vivres et coupant l'eau et l'électricité. Le blocus a pour conséquence de couper les communications et donc de paralyser les négociations. La résolution 513, le 4 juillet, demande le respect des populations civiles et le rétablissement du fonctionnement normal des services essentiels, comme la distribution de l'eau, de l'électricité et des vivres. À partir du 4 juillet, l'armée israélienne tente de progresser dans le secteur de la banlieue sud et de l'aéroport. Donc ça, c'est l'aéroport et ça, la banlieue sud, la Daria, qui est peuplée, plus que majoritairement, de chiites. Mais les attaquants sont repoussés par les miliciens. Du 6 au 11 juillet, la ville est bombardée sans résultat significatif et le moral des assiégés se renforce. Les négociations françaises et américaines convergent sur la nécessité d'une évacuation ordonnée des Palestiniens de Beyrouth Ouest afin d'éviter la destruction de la ville et des lourdes pertes humaines. Paris veut le faire dans le cadre de l'ONU, éventuellement sur la base d'un document franco-égyptien soutenu par l'Arabie saoudite, déposé le 2 juillet, comprenant la mention des droits nationaux du peuple palestinien, y compris son droit à l'autodétermination, avec ses conséquences, en tenant compte du fait que le peuple palestinien, dans ce but, doit être représenté dans les négociations de paix, et que donc l'OLP doit y participer. C'est un texte un peu contourné, comme tout texte de diplomate, mais l'idée est de permettre aux Palestiniens de sortir dans l'honneur et d'obtenir le plus politique contre le moins militaire. Et les relations entre la France et Israël se tendent à la suite d'une question d'un journaliste arabe à Mitterrand lors de sa visite à Budapest le 9 juillet. Le journaliste évoque, je cite, « l'oradour perpétré par Israël au Liban ». Mitterrand venait de commémorer quelques jours plus tôt le massacre de Radour-sur-Glane, et François Mitterrand a répondu, je cite, « Il m'est aisé de vous répondre que la politique de la France réprouve toute intervention d'un pays dans les affaires d'un autre, et a fortiori toute intervention violente, toute intervention militaire. Le propre des interventions militaires, lorsqu'elles rencontrent une résistance, c'est de provoquer, comme vous le dites, des ouradours. Pas plus que je n'ai accepté l'oradour provoqué par les Allemands en France, pas plus je n'accepterai les éventuels oradours dans tous les conflits qui obéissent à la même logique. C'est pourquoi j'ai condamné, par exemple, l'intervention soviétique en Afghanistan. » Cette déclaration provoque des répliques véhémentes de la part des autorités israéliennes qui affirment que leur armée fait tout pour épargner au maximum les populations civiles. On exige des excuses et la résidence des pères, la résidence de l'ambassadeur de France à Beyrouth, est bombardée par les Israéliens, ce qui apparemment est quand même un site civil. Il en sera ainsi à chaque phase de la tension entre la France et Israël, la résidence des pères sera bombardée. Mitterrand est peiné du fait que l'on ne prenne pas en compte son amitié ancienne et régulièrement rappelée pour l'État d'Israël. Habib, lui, s'est profondément impliqué dans le drame. Il vit littéralement les souffrances de la population libanaise qu'il côtoie tous les jours. Ses échanges avec le département d'État ou avec l'ambassadeur américain en Israël, Samuel Lewis, qu'il accuse de prendre trop à cœur ce qui est en train de se passer sur le terrain, sont souvent d'une extrême dureté. Mais en diplomate professionnel et pragmatique qui dispose de la confiance du président et du soutien de l'opinion publique internationale, il agit en fonction des intérêts essentiels de son pays. Il est d'accord sur le fait que l'OLP doit s'en sortir sans être humilié, sinon les Palestiniens se battront jusqu'au bout. Donc il faut une force d'interposition qui doit être multinationale. Elle sera composée de troupes américaines et européennes et devra disposer préalablement de l'accord de toutes les parties. À Washington, le secrétaire à la Défense, Caspar Weinberger, est profondément hostile à toute participation militaire américaine et il est obligé de céder à condition que le mandat de la force américaine d'interposition soit le plus court possible, le moins de temps possible. Schulz, lors de ses auditions au Sénat, évoque la nécessité d'un règlement comprenant les besoins et les intérêts légitimes des Palestiniens qui doivent participer aux négociations de Camp David. Si l'OLP abandonne la lutte armée, elle pourrait participer aux négociations sans être la seule représentation exclusive des Palestiniens. Le 16 juillet, Schulz prête serment, ce qui met fin à la confusion dans la prise de décision américaine. L'hégémonie américaine dans la région est maintenant clairement établie. En dehors du réarmement accéléré de l'armée syrienne, l'Union soviétique ne peut rien faire. Elle cherche à s'opposer à l'envoi des Marines américains à Beyrouth, mais doit reconnaître que ce sont les Palestiniens qui demandent l'intervention militaire américaine. D'ailleurs, ces Palestiniens reprochent avec véhémence leur passivité aux Soviétiques, qui semblent seulement concernés par l'explosion de quelques obus dans le jardin de la résidence de l'ambassadeur de l'Union soviétique. La France joue un rôle actif, mais en second par rapport aux États-Unis. Le but de la diplomatie française est de conduire les États-Unis à une approche plus favorable aux Palestiniens, mais il n'est pas question de s'opposer frontalement aux Américains. Quant à la diplomatie européenne, depuis que Mitterrand a enterré la déclaration de Venise, elle ne peut au mieux que répéter les grands principes humanitaires. Il en résulte que la contrepartie de l'hégémonie est la responsabilité. Quoi qu'il se passe, les États-Unis seront considérés comme comptables des événements en cours. Ils sont sommés par toutes les parties d'intervenir et en même temps accusés par les mêmes de ne pas faire assez en leur faveur. La situation régionale est encore compliquée du fait que l'Irak a retiré ses troupes du sol iranien et que l'armée iranienne a maintenant pénétré sur le territoire irakien. C'est la dure bataille autour de Basra. Encore une fois, les États-Unis sont amenés à réaffirmer leur protection des pays arabes du Golfe. Ces derniers poussent les États-Unis à se rapprocher de l'Irak, en expliquant qu'une victoire iranienne permettrait la constitution d'un bloc révolutionnaire comprenant l'Iran, l'Irak et la Syrie et menaçant tous les alliés des États-Unis dans la région. Le roi Hussein se fait l'avocat permanent de l'Irak auprès des Occidentaux. Rappelons que les États-Unis refusent de vendre des armements à Bagdad alors qu'Israël vend au prix fort de l'armement à l'Iran révolutionnaire. Là encore, la guerre du Liban apparaît pour les pays du Golfe comme une dangereuse diversion, alors que leur sort est en jeu dans la bataille en cours autour de Basra. Quand on évoque la question du retrait des forces étrangères du Liban, il est facile de dire que les Syriens doivent rentrer en Syrie et que les Israéliens doivent rentrer en Israël, mais il est plus difficile de faire rentrer les Palestiniens en Palestine. Au départ, Habib a pensé à une évacuation des Palestiniens de Beyrouth au Liban Nord, mais ni les autorités libanaises ni les autorités israéliennes n'en veulent en entendre parler, puisque ça maintiendrait la présence militaire palestinienne au Liban. Habib a ensuite envisagé la solution égyptienne. Les combattants de l'OLP seraient envoyés en Égypte où ils seraient désarmés, et immédiatement Moubarak a refusé. Le diplomate américain se tourne alors vers l'option syrienne. Les Syriens répondent qu'il n'est pas question d'accepter les combattants sur leur sol, d'autant plus qu'ils seraient rapidement rejoints par leur famille. Assad accepte quand même de recevoir un contingent, mais Arafat refuse, sachant parfaitement que cela se terminerait par une totale dépendance de l'OLP envers le régime syrien. L'Irak n'est pas une solution non plus. Pour Arafat, les Palestiniens deviendraient immédiatement de la chair à canon dans la guerre Irak-Iran. Seul Sharon pense à envoyer les Palestiniens en Jordanie, qui pour lui est un État palestinien, mais évidemment le roi Hussein ne veut pas en entendre parler. Donc les Américains découvrent qu'il existe un problème palestinien. Plusieurs de leurs interlocuteurs arabes refusent d'accepter les réfugiés du Liban sur leur sol, tout en reconnaissant qu'ils risquent d'être massacrés quand l'OLP sera parti. Les États-Unis sont ainsi contraints de traiter avec l'ensemble des pays arabes du sort des Palestiniens sans avoir le droit d'en parler directement avec les Palestiniens. Les rencontres essentielles sont l'entretien entre Reagan et les ministres syriens saoudiens des Affaires étrangères à Washington le 20 juillet, puis le 30 juillet entre le président et le ministre égyptien des Affaires étrangères. Quant à Bachir Gemayel, il explique aux Israéliens que son but est d'expulser la totalité des Palestiniens du Liban en Syrie. Il a l'approbation de Sharon. Une fois les camps palestiniens rasés, il est impensable de tolérer leur reconstruction. C'est aux Libanais de s'occuper de leur départ. David Kimche, ou Kimre, qui est le secrétaire général du ministère israélien des Affaires étrangères et un ancien chef du Mossad, a expliqué à Bachir Gemayel, déjà convaincu, qu'il faut que les forces libanaises et l'armée nettoient les camps palestiniens du Liban. En ce qui concerne le Liban Sud, les autorités israéliennes considèrent que la destruction des camps palestiniens est une heureuse conséquence des combats. L'ordre est donné d'interdire leur reconstruction. Dans l'immédiat, plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens sont entassés sous des tentes. Dans la perspective israélienne, dès qu'on en pourra, on les expulsera du Liban Sud. Sur le terrain, on coopère avec les services de renseignement des forces libanaises dirigées par Elie Beïka. Des assassinats de cadres palestiniens ont lieu à Saïda, avec au moins la complicité passive des forces d'occupation. Pour mettre fin au blocus et permettre la reprise des négociations, les Américains laissent entendre que si rien n'est modifié, ils devront passer par des contacts directs avec l'OLP. Habib se déclare prêt à faire des discussions de proximité, c'est-à-dire de siéger dans le même immeuble que les Palestiniens, mais dans une autre pièce, les Libanais faisant le messager entre les deux parties de l'appartement. Se retrouve là, de façon inversée, le schéma ancien des discussions comme celle de l'armistice de Rhodes en 1949. Cette fois, ce ne sont pas les Arabes qui refusent de rencontrer leurs interlocuteurs, mais ce sont les Américains qui refusent de rencontrer les Palestiniens. Cette perspective inquiète grandement les Israéliens qui déclarent leur opposition résolue. Finalement, les conditions élémentaires de sécurité règlent la question. Les dirigeants palestiniens ne peuvent indiquer leur localisation, car cela serait donner immédiatement l'occasion aux Israéliens de les assassiner. Les contacts entre les intermédiaires libanais et Arafat peuvent reprendre le 9 juillet. Le 11 juillet, Sharon accepte un cessez-le-feu précaire et un relâchement du blocus en raison des pressions internationales, si plutôt symboliques que réelles, d'autant plus que les engagements pris à Jérusalem ne semblent pas respectés sur le terrain. Néanmoins, la contrebande est intense entre les deux parties de Beyrouth. Pour faciliter le passage, les commerçants libanais utilisent des emballages israéliens de fruits et légumes pour faire passer dans la zone en sous-siège les produits alimentaires. Seule la population civile souffre des privations. Les combattants disposent d'abondantes réserves de vivres et de carburant, ce qui leur permet de faire tourner les pompes des puits qui alimentent en eau la ville. Le gouvernement libanais s'inquiète de toutes ces initiatives diplomatiques qui risquent de conduire à une perpétuation de la présence palestinienne. On s'active à la préparation de l'élection présidentielle. Le 20 juillet, le président du Parlement fixe au 3 août la tenue du premier tour. Le 24 juillet, Bachir Gemayel annonce officiellement sa candidature. La classe politique musulmane tente de gagner du temps en évoquant la nécessité d'une entente préalable autour d'un programme présidentiel. Comme tout est concentré sur Beyrouth, on ne prend pas conscience que les Palestiniens ont toujours une forte présence dans le Liban Nord, dans la région de Tripoli, où d'ailleurs les frictions se multiplient entre leurs alliés locaux et les forces pro-syriennes. De même, les Syriens tiennent solidement à la Bekaa et une partie de la montagne. Les gardiens de la révolution iraniens encadrent une tendance dissidente du mouvement Amal. Après l'enlèvement et la disparition de 4 diplomates iraniens par les forces libanaises, l'évêque grec catholique de Baalbek est enlevé en représailles, puis libéré après plusieurs jours de négociations. Dans les régions occupées par l'armée israélienne, on sent déjà l'amorce d'une action de résistance avec le début d'attentats contre les forces d'occupation. En Israël, face à un mouvement de contestation qui commence à prendre de l'ampleur, le gouvernement organise le 17 juillet une manifestation de soutien qui réunit 220 000 personnes à Tel Aviv, selon les autorités. Begin y fait des déclarations qui lui seront ensuite vivement reprochées. Je cite « Que les assassins qui sont encore à Beyrouth sachent qu'ils n'ont pas 30 jours pour quitter la ville. Nous avons liquidé 90% des terroristes. Nous liquiderons les 10% restants. Arafat prend garde. Sharon viendra te chercher à Beyrouth rapidement. Il y aura la paix entre le Liban et Israël, puis avec la Jordanie. Les deux pays, Israël et Jordanie, s'uniront pour une confédération libre. Aucun arabe ne lèvera la main sur un juif, pas une seule bête à deux pieds n'attaquera un seul enfant juif. » Les bêtes à deux pieds, ce sont les Palestiniens. La Jordanie voit dans cette déclaration une menace directe pour son existence et rappelle les réservistes pour défendre le pays. Sharon et Begin s'impatientent du fait de l'absence de progrès dans les négociations. Ils ne veulent pas entendre parler d'évacuation, mais d'expulsion. Le ton monte entre les Israéliens et l'équipe Habib. L'ambassadeur se fait accuser de partialité envers les Arabes et de rappeur, qui est le numéro 2 de Habib et Dillon, d'antisémitisme. Quant à Habib, il considère que Sharon est un menteur pathologique et s'interroge sur le degré de complicité entre le Premier ministre et son ministre de la Défense. Très caractéristique des relations entre la mission Habib et l'armée israélienne, le quartier général de Habib est la résidence de l'ambassadeur américain à Bar Abda. Sharon fait placer des tanks et de l'artillerie juste devant et s'en sert pour bombarder Beyrouth Ouest. Cela compromet les Américains qui travaillent dans le bruit de la canonnade et attire les tirs palestiniens. Il faut rappeler au passage que la propagande israélienne accuse en permanence les Palestiniens de placer leur position d'artillerie à proximité des lieux civils, hôpitaux, écoles, etc., alors que là, on voit le cas où la position israélienne est de mettre les canons à côté de l'ambassade américaine. Prenant prétexte des diverses attaques menées dans l'ensemble du pays contre les forces d'occupation, dont 5 soldats tués dans une embuscade, les Israéliens reprennent le 22 juillet le bombardement de Beyrouth ainsi que des positions syriennes de la Bekaa. Le 27 juillet, le bombardement s'intensifie. Le bilan s'en établit à plusieurs centaines de morts et de blessés. L'un des objectifs israéliens est de tuer le personnel dirigeant de l'OLP en essayant de les localiser grâce à des informateurs locaux. Mais les dirigeants de l'OLP se déplacent constamment, ne restant que quelques minutes en un lieu, et ce sont les habitants du secteur qui sont victimes des bombardements israéliens. Les Israéliens justifient les bombardements par la nécessité d'accroître la pression sur les assiégés. Ce sont des actions psychologiques pour faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre option que le départ. Mais les bombardements rendent matériellement impossible la poursuite des négociations. Indépendamment des conditions de sortie, la direction de l'OLP est anxieuse d'obtenir un succès politique majeur. Arafat soutient le texte franco-égyptien qui ajoute à la résolution 242 les droits nationaux du peuple palestinien. La Syrie ne veut pas en entendre parler, car le texte franco-égyptien comprend le retrait complet des Israéliens, de toutes les forces non libanaises. Damas veut le retrait des Israéliens, mais pas de ses propres forces, car c'est la sécurité même des territoires syriens qui est en jeu. Les Syriens vont même jusqu'à demander aux Soviétiques un veto sur le document franco-égyptien, tandis que l'OLP fait passer le message contraire à l'Union soviétique. Quand Habib se rend à Damas le 22 juillet pour discuter d'un éventuel accueil des Palestiniens en Syrie, Assad exige que les États-Unis tiennent leur parole d'obtenir un retrait immédiat des Israéliens du Liban, et Habib explique que ce n'est pas dans son pouvoir. Le 25 juillet, Arafat, recevant des parlementaires américains, signe un document où il est écrit qu'il accepte toutes les résolutions de l'ONU concernant la question palestinienne, aussi bien les 242-338 que les résolutions de l'Assemblée générale. Il considère qu'il a ainsi rempli les conditions exigées par les États-Unis. Israël dénonce une manœuvre de propagande. Les Américains s'en tiennent à la reconnaissance exclusive des résolutions 242 et 338, mais pas des autres résolutions de l'ONU. À l'ONU, les Américains bloquent le texte franco-égyptien tout en faisant passer la résolution 515 le 29 juillet qui ne prévoit que des questions humanitaires comme la levée du blocus de Beyrouth. La décision palestinienne s'explique par le manque de soutien arabe. Excusez-moi. Le même jour à Jeddah, en Arabie Saoudite, la Ligue des États arabes, réunie en comité restreint, publie un plan de paix approuvé par l'OLP, avec un retrait de l'OLP de Beyrouth et la participation de forces internationales à l'instauration de la sécurité et de la sûreté à Beyrouth et dans ses faubourgs. Et cette fois, l'OLP accepte le retrait sous forme du plan arabe de Jeddah. La décision palestinienne s'explique par le manque de soutien arabe, en particulier saoudien et syrien, et par le refus inébranlable des Américains à tout préalable politique à l'évacuation. Les Soviétiques ont transmis un message équivalent à Arafat. Ils ne peuvent intervenir sur le terrain. Arafat doit accepter de quitter Beyrouth, même sur un navire de guerre américain, si on lui propose. Sur la base d'assurances vagues, on doit s'attendre à un futur projet américain prenant en compte les intérêts légitimes, et pas les droits nationaux, des Palestiniens. On suivra donc la ligne fixée par Habib, la priorité donnée à l'évacuation afin de soulager la souffrance de la population. C'est le maximum que puissent faire les États-Unis devant la reprise des bombardements israéliens. Une fois le principe de l'évacuation acquis, trois questions essentielles restent à régler. L'ampleur et la mission de la force multinationale, les pays de destination des Palestiniens et la sécurité de la population palestinienne restant à Beyrouth. La priorité immédiate est de mettre fin au bombardement. En dépit des appels de Reagan à un cessez-le-feu, c'est un déluge de feu qui se déverse sur Beyrouth les 2 et 3 août 1982. Les soldats israéliens tentent une percée dans la ville, mais sont repoussés avec des pertes sensibles. Depuis le début de la guerre, les pertes israéliennes s'élèvent maintenant à plus de 300 tués. Néanmoins, les Israéliens maintenant ont pris le contrôle du secteur de l'aéroport et donc ils commencent à pénétrer vers Beyrouth, l'intérieur de Beyrouth Ouest. Donc on se bat dans ce secteur par là, les camps palestiniens étant ici. Comme d'habitude, la résidence des Pins est bombardée. Ça, c'est une simple mention pour le plaisir. Donc, sous les bombardements, on ne peut pas réunir le Parlement libanais, donc il n'y a pas d'élection. Reagan, qui lui a envoyé ses vœux pour son 69e anniversaire, Begin répond, je cite, « Maintenant, puis-je vous dire ce que je ressens ces jours-ci quand je me tourne vers le Créateur avec une profonde gratitude ? Comme Premier ministre, je suis à la tête d'une vaillante armée faisant face à un Berlin où parmi des civils innocents, Hitler et ses acolytes se cachent dans un bunker. Ma génération, mon cher Ron, a juré sur l'autel de Dieu que quiconque proclamerait son intention de détruire l'État juif ou le peuple juif ou les deux, scelle son destin de telle façon que ce qui est arrivé à Berlin, sans guillemets, ne recommencera jamais. » Donc on voit combien Begin vit la Seconde Guerre mondiale à travers cette guerre du Liban. Le 1er août, le Conseil de sécurité a voté la résolution 516 autorisant le déploiement d'observateurs à Beyrouth, mais les Israéliens leur interdisent l'accès. Le 4 août, c'est la résolution 517 où on demande le retour aux lignes du 1er août, mais cela ne donne rien. Le 5 août, un calme précaire s'installe. Le site Wazan annonce qu'un accord a été obtenu pour un départ des combattants palestiniens simultanément à l'arrivée de la force multinationale. La réponse israélienne est de bombarder un immeuble à 100 mètres du sérail où réside Shafiq al-Wazan, faisant 150 morts, essentiellement des civils. Ça aurait été un centre de communication du Fatah. Les Israéliens ont utilisé une bombe à implosion. À l'impact, ça vaporise un nuage de carburant qui est ensuite enflammé, créant un effet d'implosion dans un diamètre de 15 mètres. L'air brûle en même temps que les vapeurs de carburant, créant un vide brutal qui aspire les murs extérieurs vers le centre de l'immeuble touché. Sharon justifie cette utilisation, l'une des premières dans un conflit, d'une bombe dite intelligente, smart bomb, par le fait que l'objectif était de tuer Arafat. Les mêmes jours, les militaires israéliens harcèlent la mission Habib. Néanmoins, la composition de la force multinationale est clarifiée. Les États-Unis, la France et l'Italie fourniront chacun un contingent. Il est décidé que chaque force agirait de façon autonome, Habib exerçant la coordination politique. Les officiers de liaison arrivent à Beyrouth. Les Marines américains, sous instruction de von Berger, veulent un engagement le plus limité possible, tandis que les Français se montrent prêts à tout faire. Il faut naturellement trouver un équilibre en contraignant les Américains à faire plus et les Français un peu moins. Tous s'accordent sur le fait que la mission n'est pas de prendre le contrôle de Beyrouth Ouest, mais seulement de s'interposer et d'assurer le regroupement des Palestiniens et leur évacuation. Il n'est pas question que la force multinationale devienne une milice supplémentaire engagée dans les combats libanais. Le premier problème réside dans la demande palestinienne que la force multinationale s'interpose avant l'évacuation, alors que Sharon et Begin exigent qu'elle arrive après. Les Palestiniens, avec beaucoup de bon sens, pensent que sinon ils seront massacrés par les Israéliens. Les Israéliens craignent qu'une fois sous protection étrangère, les Palestiniens refusent de bouger. Habib répond que dans ce cas-là, la force multinationale se retirerait immédiatement. L'impasse dure plusieurs jours. Finalement, Begin prend ses distances par rapport à Sharon et rejette l'hypothèse d'une invasion de Beyrouth par l'armée israélienne. L'équipe de Habib a un moment envisagé l'évacuation de la totalité de la population palestinienne de Beyrouth, soit de l'ordre de 140 000 personnes, une opération de l'envergure du transfert des populations gréco-turques au lendemain du traité de Lausanne de 1923. Cela va dans le sens des exigences de la Croix-Rouge internationale qui refuse de séparer les combattants de leurs familles. Indépendamment des lourdes contraintes logistiques, un tel transfert reçoit l'opposition résolue des éventuels pays arabes d'accueil. La question de la destination est réglée par les pressions intenses que les États-Unis exercent sur la Tunisie, siège de la Ligue des États arabes. Elle est suffisamment loin de la région des combats pour avoir à craindre des répercussions militaires. Son rôle dans le monde arabe sera ainsi rehaussé. Une fois l'accord de la Tunisie obtenu, les autres pays arabes acceptent d'accueillir une partie des combattants palestiniens, en particulier le Yémen du Sud. Jusqu'au 12 août, Sharon continue le bombardement de Beyrouth tout en affirmant le contraire à Begin. Ce jour-là, le plus épouvantable pour les assiégés, faisant cela à la presse, 156 morts et 400 blessés. À la demande de Philippe Habib et du roi Fahd d'Arabie Saoudite, Reagan doit appeler lui-même Begin et le somme d'arrêter cet holocauste, terme qu'il a volontairement choisi, sinon leur relation future risque d'être compromise. Pour Reagan, la guerre se résume à l'image produite par l'agence UPI d'un enfant de 7 mois qui a perdu les deux bras suite à l'explosion d'un obus israélien. Les Israéliens répondent que le tir était palestinien et on entre dans la politique macabre de savoir qui tue des enfants. Finalement, le Premier ministre exige une autorisation préalable du gouvernement avant tout bombardement pour contrôler ce que fait Sharon sur le terrain. Il est clair que jusqu'au bout, Sharon a privilégié l'hypothèse de l'entrée de l'armée israélienne à Beyrouth, mais il est maintenant complètement isolé à l'intérieur du gouvernement. Quant à Begin, il est de plus en plus inquiet de la dégradation des relations avec les États-Unis. De façon plus générale, on est de plus en plus impressionné en Israël par la montée d'une hostilité générale dans l'opinion mondiale devant la conduite de l'armée israélienne au Liban. Certes, on peut accuser les médias internationaux de distorsion de la réalité ou d'antisémitisme, mais le fait est là. Particulièrement douloureux est l'usage fait d'expressions comme génocide ou solution finale, dont on ne perçoit pas qu'il est le retournement même du vocabulaire utilisé par le gouvernement israélien. Le débat s'amplifie pour savoir si on est dans une guerre de non-choix, c'est-à-dire inévitable et imposée à l'État hébreu, ou dans une guerre politique destinée à transformer la carte politique de la région. La confusion à l'intérieur du gouvernement israélien sur la nature même de la guerre et sur les mensonges, au moins par omission de Sharon, alimente le malaise. On perçoit tout cela dans les résolutions du bureau exécutif du Parti travailliste le 29 juillet. On y déplore le bombardement des zones peuplées de civils de Beyrouth. De tels actes non seulement causent des pertes humaines, mais portent atteinte à l'image d'Israël en tant qu'État démocratique fondé sur des valeurs humanistes. On appelle en même temps à combattre les trucages, les tromperies et les manifestations d'antisémitisme qui accompagnent la campagne israélienne dans le monde. Le 9 août, un attentat frappe un restaurant juif à Paris, rue des Rosiers, faisant 6 morts et 23 blessés. Immédiatement, le gouvernement israélien a fait porter la responsabilité sur le gouvernement français à cause de la référence à Oradour. On propose même d'aider les Juifs de France à organiser leur autodéfense. François Mitterrand est profondément affecté par ces attaques. La politique française soupçonnera le groupe Amoudidal, mais sans trouver d'indication concluante. Récemment, on a évoqué une piste néo-nazie allemande, mais là encore, sans aucune preuve déterminante. Après le bombardement inutile du 12 août, on peut entrer dans les détails. Le 15 août, Begin accepte que les Français soient les premiers à entrer à Beyrouth, à débarquer, pardon, et que la force multinationale s'interpose avant l'évacuation. La question suivante est de savoir qui va partir. Les soldats syriens et les contingents de la LP ne posent pas de problème. Ils iront vers la Syrie. Plus difficile à déterminer est la catégorie des miliciens palestiniens, composée pour une part de combattants occasionnels. Israël exige de disposer d'une liste nominale des partants. L'OLP répond qu'elle est trop désorganisée par les bombardements pour pouvoir les fournir. En fait, l'OLP ne dispose pas d'un tel document en raison de la pluralité des mouvements concernés et du fait qu'il n'y a pas de registre d'immatriculation des combattants palestiniens. Les Israéliens abandonnent la demande. Ils exigent en revanche qu'on leur livre les corps de 9 soldats israéliens tués et 2 prisonniers dans les combats et détenus par les Palestiniens, qui tentent de les négocier contre des milliers de prisonniers gardés dans les camps israéliens. L'OLP cède et la livraison a lieu le 20 août. Un autre problème est posé par l'élection présidentielle libanaise, maintenant fixée au 23 août. Les responsables musulmans tentent de s'opposer à l'élection de Bachir Gemayel en jouant sur le quorum nécessaire ou la demande d'un candidat de compromis. Pour pouvoir disposer d'un moyen de pression, l'armée israélienne cède le secteur du port aux forces libanaises, ce qui conditionne l'évacuation de Beyrouth à l'élection libanaise, puisque tant que les forces libanaises sont là, ils interdisent l'arrivée de la multinationale. Pour être ici. Pardon, il faut que je retrouve ma ligne. On trouve le moyen de sauver la face à tout le monde et reste la question essentielle de la sécurité de la population palestinienne. Arafat demande une garantie américaine ou internationale. Elle ne peut être fournie que pour la durée de la présence de la force multinationale, c'est-à-dire un mois. Habib négocie donc un engagement formel du nouveau gouvernement israélien de ne pas faire entrer l'armée israélienne à Beyrouth Ouest, puis Bachir Gemayel lui donne sa garantie personnelle que les forces libanaises ne s'en prendront pas aux Palestiniens restants. Reste à convaincre Arafat de la résidence de Dillon. Wazan donne par téléphone les assurances nécessaires aux chefs palestiniens. Après avoir hésité, Arafat se laisse convaincre. Autrement dit, Arafat a la conviction qu'il a une garantie américaine, qu'il n'y aura pas de représailles contre la population civile palestinienne à Beyrouth, une fois les combattants palestiniens partis. En fait, les premiers éléments du drame sont en train de se nouer. Les services secrets israéliens sont persuadés qu'au moins 2000 combattants palestiniens vont rester, éventuellement sous une fausse identité libanaise. Le 17 août, Sharon exige que les forces libanaises lui fournissent le maximum d'informations sur les caches et les dépôts d'armes. Bachir lui promet qu'une fois qu'il aura pris les fonctions présidentielles, l'armée libanaise et ses auxiliaires, c'est-à-dire les forces libanaises, encercleront les camps palestiniens qui seront ensuite soumis à un ratissage systématique appuyé sur une collecte de renseignements détaillés. Il est convenu que l'armée israélienne restera à proximité de Beyrouth, au-delà du séjour de la force multinationale, afin d'appuyer, si nécessaire, les opérations de nettoyage. Le 21 août, les premiers éléments de la Légion étrangère débarquent à Beyrouth. Arafat et la direction palestinienne ont fait savoir qu'en dehors des contingents réguliers et des cadres, les miliciens ont le libre choix de rester ou de partir, tout en les prévenant que le sort de ceux qui resteraient ne serait pas enviable. Un certain nombre de combattants hésiteront jusqu'au dernier moment. Les combattants peuvent partir avec leurs armes légères. En fait, et combattants, tout individu masculin de plus de 17 ans portant un uniforme et à la rigueur des femmes du même âge avec la même condition. Très rapidement, les Palestiniens cèdent leur armement lourd aux principales milices musulmanes. Certains cachent quelques armes au cas où pour le futur. Parallèlement, la population qui avait en bonne partie quitté les camps, objectif privilégié des bombardements israéliens, revient dans ses foyers, tandis qu'un semblant de vie normale est rétabli à Beyrouth Ouest. Le 21 août au soir, un premier contingent de 365 Palestiniens s'embarque sur un bateau grec. L'OLP organise le départ comme une sorte de défilé de la victoire. Après tout, les Palestiniens ont tenu 50 jours de siège contre une armée considérablement supérieure et ils ont réussi à rester au centre de la problématique politique. Le deuxième jour, une âpre querelle éclate à propos de la volonté des Palestiniens d'emporter avec eux un certain nombre de véhicules. Les Israéliens affirment qu'il s'agit là de matériel militaire lourd. Habib refuse de les suivre. On est au bord de l'affrontement entre Américains et Israéliens. Begin cède. En fait, tout ça, c'est une question de symbole, puisque les véhicules en question seront abandonnés par les Palestiniens à Chypre et personne n'ira les chercher. Le jour suivant, les bâtiments de la 6e flotte prennent position au large de Beyrouth et exigent le retrait des unités navales israéliennes afin qu'elles ne soient pas en moyen de couler les ferries d'évacuation. Comme les Israéliens refusent, on est au bord de la bataille navale entre la 6e flotte et la marine israélienne. Finalement, les Israéliens s'établissent à quelques distances. Le 23, la querelle porte sur le fait de savoir si les lance-roquettes RPG sont des armes légères ou non. Les inspecteurs américains font une inspection de principe de quelques minutes pour déclarer qu'il n'y en a pas à bord. Le même jour a lieu l'élection présidentielle. Habib Edilon considère que Bachir Gemayel est le seul capable de rétablir l'État libanais, à condition qu'il se comporte comme le président de tous les Libanais. Les députés sont soumis aux menaces des uns et des autres, tout aussi bien qu'à des alléchantes sollicitations financières. On parle de 500 000 dollars le vote. Certains demandent qu'ostensiblement ils soient sous la pression des armes afin de paraître avoir été contraints par la force à voter, tout en recevant le chèque, bien évidemment. Le quorum des 59 présents est atteint puis dépassé. Finalement, Bachir est élu par 57 voix et 5 votes blancs. Beyrouth Est exulte de joie, tandis qu'à l'Ouest, on détruit les permanences des députés musulmans présents au vote. Là, c'est les deux frères Gemayel se saluant à l'issue du vote. Le 26 août, les forces syriennes et palestiniennes de l'ALP quittent Beyrouth par voie de terre pour rejoindre la Syrie. La force multinationale est maintenant au complet. Le 30 août, on est à 14 938 évacués. Arafat s'en va avec les honneurs dus à un chef d'État. Les Israéliens sont furieux de la bonne organisation des forces palestiniennes qui apparaissent comme une armée en bon ordre et non comme une milice dépénaillée. Le 1er septembre, l'évacuation est achevée. Elle a concerné 8500 Palestiniens par voie de mer et 6100 Palestiniens et Syriens par voie de terre, bien plus que ceux qui avaient été attendus par les Israéliens. Le 7 septembre, Habib recevra à Washington la médaille de la liberté, la plus haute distinction accordée à un civil. Il est devenu un héros national aux yeux des Américains. À partir du 27 août, l'armée libanaise, sous le commandement du colonel Michel Aoun, pénètre à Beyrouth Ouest avec le soutien de la force multinationale qui s'occupe en particulier des déminages. Les milices sunnites cèdent la place sans affrontement et la population accueille chaleureusement le retour de l'autorité légale. Bachir Gemayel confie le commandement des forces libanaises à son second Fadi Frem. Son idée est de les intégrer progressivement à l'appareil d'État, d'en faire une sorte de garde prétorienne du nouveau régime. Dès sa prise de fonction, Schulz a organisé un groupe de travail pour définir un nouveau départ, fresh start, dans le processus de paix. Il n'a pas été question de conditionner le départ des Palestiniens, mais il a été entendu qu'il y aurait une initiative américaine une fois l'évacuation de Beyrouth obtenue. Le message a été passé aux Français et aux interlocuteurs arabes. Le principe est de rester dans le cadre de camp des vides, mais avec cette fois des représentants palestiniens légitimes participant à la négociation, donc introduire une forme d'autodétermination. La première idée est que la négociation ne doit pas être conditionnée à la reconnaissance d'exigences fondamentales. Les Arabes peuvent demander un État palestinien et les Israéliens l'annexion. Le second point est que les territoires occupés ne constituent pas une base suffisante pour établir un État indépendant. La solution serait de passer par un ensemble plus grand comprenant la Jordanie. À la mi-août, Reagan a approuvé avec enthousiasme le projet. Des sondages ont eu lieu. L'ambassadeur israélien à Washington, Moshe Arendt, rejette toute discussion avant le règlement de la question libanaise sous forme d'un traité de paix israélo-libanais. Il n'est pas question de réintégrer les Palestiniens dans la problématique politique. Le roi Hussein se montre intéressé, mais s'inquiète du risque de voir les Américains flancher devant l'opposition israélienne prévisible. Il cherche à obtenir un soutien arabe avant d'agir. Le 30 août, Les Saoudiens sont informés du contenu du plan par l'intermédiaire de leur attaché militaire à Washington, le prince Bandar Ben Sultan, qui est en fait l'émissaire permanent du roi dans la capitale américaine. Le roi Fahd se montre déçu de l'absence de reconnaissance de l'OLP. Moubarak est aussi informé et donne un avis généralement positif. Le 31 août, Samuel Lewis est chargé de communiquer le texte à Begin, qui prend quelques repos à la station balnéaire de Nahariya. Il est atterré par ce texte qu'il définit comme une violation des accords de Camp David. Il répond qu'il va naturellement discuter avec son gouvernement. Il est particulièrement en colère du fait que les Arabes ont été consultés préalablement, que l'Arabie saoudite soit considérée comme un partenaire à part entière et qu'Israël soit traité de la même façon que les partenaires arabes de Washington. Begin demande que les Américains retardent la publication du plan afin d'avoir le temps de l'étudier, mais la presse israélienne l'attaque immédiatement, de toute façon pour pouvoir profiter de la dynamique en cours. Reagan le rend public lors d'une allocution le 1er septembre 1982. Il salue d'abord le grand succès que constitue l'évacuation de Beyrouth, dû au travail héroïque de l'ambassadeur Philippe Habib. Il faut maintenant aborder le problème d'ensemble que pose le conflit au Moyen-Orient et arriver à une paix juste et durable entre Arabes et Israéliens. Les pourparlers sur l'autonomie palestinienne ont été suspendus par le conflit. Cette guerre offre une nouvelle chance de paix. Je cite, « La guerre du Liban a été très révélatrice, mais deux de ses conséquences revêtent une importance cruciale pour le processus de paix. Tout d'abord, les pertes militaires subies par l'OLP n'ont pas diminué le désir du peuple palestinien d'aboutir à une situation juste qui satisfasse leurs aspirations. Et en second lieu, si les succès militaires remportés par Israël au Liban ont prouvé la suprématie locale de ses forces armées, il n'en reste pas moins que celle-ci ne peut instaurer à elle seule une paix juste et durable entre Israël et ses voisins. Il faut donc concilier les préoccupations légitimes d'Israël et les droits non moins légitimes des Palestiniens. Il faut arriver à une solution de compromis acceptable pour tous. Je cite, « J'en appelle à Israël pour qu'il reconnaisse explicitement que la sécurité à laquelle il aspire ne peut être obtenue si ce n'est par le biais d'une paix véritable, une paix qui exige à la fois magnanimité, prévoyance et courage. Je demande au peuple palestinien d'accepter le fait que ses propres aspirations politiques sont inextricablement liées à la reconnaissance du droit d'Israël à un avenir sûr. » Et ensuite, on reprend les principes de Camp David avec un gel de la colonisation. Le compromis proposé par les Américains passe par l'abandon de l'idée d'un État palestinien, mais aussi celle de l'annexion par Israël ou sa domination permanente de territoire. Je cite, cependant, il existe une autre solution qui peut mener à la paix. L'élaboration d'un statut définitif de ces territoires devra se faire, bien sûr, par le jeu des compromis au cours des négociations, mais les États-Unis sont fermement convaincus que la meilleure chance de parvenir à une paix stable, durable et juste est d'instaurer un autogouvernement des Palestiniens sur la rive occidentale du Jourdain et du secteur de Gaza en association avec la Jordanie. Notre attitude repose carrément sur le principe que le conflit israélo-arabe devrait être résolu par des négociations reposant sur un troc des territoires en échange de la paix. C'est ce que contient la résolution 242 du Conseil de sécurité, cette dernière étant elle-même partie intégrante des accords de Camp David. La résolution 242 s'applique toujours selon Reagan à la totalité des territoires occupés. Jérusalem doit demeurer indivisible, mais son statut doit être fixé par des négociations. La première réaction de la direction de l'OLP est prudente. Le plan contient des éléments nouveaux, en particulier le refus de l'annexion par Israël et le gel de la colonisation. La gauche radicale le rejette du fait de la non-reconnaissance du droit à l'autodétermination. Le communiqué officiel du gouvernement israélien est plus négatif, comme on pouvait s'y attendre, en affirmant que le plan Reagan est contraire aux accords de Camp David, la participation des habitants de Jérusalem-Est aux élections de l'autorité est contraire à ainsi que le gel de la colonisation. Le peuplement est un droit inaliénable des Juifs et constitue une composante intégrale de notre sécurité. Nous continuerons à créer des centres de peuplement conformément à notre droit naturel. L'autonomie ne s'applique pas aux territoires, mais aux habitants. Israël a le droit de revendiquer la souveraineté des territoires. Le plan américain n'interdit pas la constitution ultérieure d'un État palestinien. C'est donc contraire aux accords de Camp David. Et donc, la première réaction officielle israélienne est créer de 3 nouvelles colonies de peuplement en Cisjordanie. Les travaillistes, dans l'opposition, accueillent favorablement le plan Reagan, mais refusent le gel de la colonisation et la réouverture de la question de Jérusalem. La différence de programme réside dans le fait que le Likoud veut aller vers une annexion totale des territoires, sans faire de la population des citoyens israéliens, que les travaillistes restent attachés au plan Alon, annexion d'un tiers de la Cisjordanie mise sous co-tutelle avec la Jordanie du reste. Cela n'offre aucune perspective attrayante pour les Palestiniens. À la Knesset, Begin obtient un vote d'approbation de son refus du plan américain par 50 voix contre 36. Et comme ça fait une bonne coupure, nous arrêterons là pour aujourd'hui.